Pour les cas contacts, ça va être toutes les personnes que vous avez vues sans masque, sans respecter la distanciation sociale d'un mètre.
D'accord.
Ok.
Elles poursuivent leur travail de fourmi pour lutter contre la reprise de l'épidémie. Les cellules de traçage des cas contacts ont plus que jamais un rôle clé pour éviter une deuxième vague. On vous emmène au cœur du dispositif dès le début de ce journal. La traque se poursuit au Niger avec les experts de l'armée française pour tenter de retrouver le commando meurtrier des humanitaires d'ACTED.
Les militaires sont en place partout dans la bourse. Les policiers, les gendarmes, tout.
Tandis qu'au Liban, une question se pose. Et maintenant, après la démission du gouvernement, nous serons à Beyrouth. Dans ce journal également, la crise qui durcit les conditions d'obtention des prêts immobiliers, les températures toujours très élevées qui font les affaires des glaciers.
Dans le top 3, on retrouve souvent les bâtonnets et les cônes. Les sorbets, c'est essentiellement de l'eau, hein. Donc forcément, voilà, ça rappelle de la fraîcheur.
Et de la fraîcheur, justement, il va en falloir demain aux joueurs du PSG, J-1, avant le quart de finale de Ligue des Champions face à Bergame. Votre invité politique après ce journal, Sébastien.
La crise économique va-t-elle se doubler d'une crise du logement? Quels investissements à venir? C'est l'un des gros enjeux du plan de relance. La nouvelle ministre du Logement, Emmanuel Wargon, est sur Europe 1 ce matin dans un quart d'heure. Très belle matinée, il est 8h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des résidents d'un EHPAD de Meurthe-et-Moselle reconfinés après un décès lié au Covid et une trentaine de cas au sein de l'établissement. 21 nouveaux foyers détectés hier dans tout le pays. Jour après jour, les données montrent que le regain de l'épidémie est tout sauf une vue de l'esprit, d'où le rôle clé en ce moment des brigades anti-coronavirus, ces cellules de l'assurance maladie chargées de retracer les cas contacts de chaque malade pour les confiner le plus possible et éviter la dissémination. On vous emmène ce matin au cœur du dispositif. Reportage à Bobigny. Caroline Baudry.
Pour les cas contacts, ça va être toutes les personnes que vous avez vues sans masque, sans respecter la distanciation sociale d'un mètre.
D'accord.
Ok.
Face à son ordinateur, Mélissa commence son enquête sanitaire. Au bout du fil, une malade du virus donne les noms des personnes qu'elle aurait pu contaminer avant l'apparition des symptômes. Elles seront appelées une à une pour être prévenues et testées.
Est-ce que vous voulez garder votre anonymat ?
Non.
Certains ont peur, ils pensent que c'est quelque chose de mal. Ils peuvent être protégés par l'anonymat. Ça débloque énormément de situations, surtout dans le milieu professionnel.
Plus de 300 personnes sont contactés chaque jour. On s'assure qu'ils aient des masques et les moyens de s'isoler en attendant les résultats du test. L'objectif, qu'aucune ne passe entre les mailles du filet alors que le virus se propage en Seine-Saint-Denis, constate Aurélie Combasse-Richard, directrice à l'assurance maladie du département.
Alors on était début juillet à 30 cas par jour. Aujourd'hui, on est entre 80 et 100. Donc vous voyez, on a fait presque x3 en un mois. On voit vraiment que c'est reparti. Le virus, c'est vraiment une course contre la montre. Il faut vraiment qu'on arrive à boucler toutes les enquêtes en 24 heures. Il faut qu'on aille plus vite que le virus, si vous voulez.
Et pour gérer la pression face à ces nouveaux cas, 10 enquêteurs supplémentaires seront recrutés cette semaine.
Et un conseil de défense se réunira sur ce sujet de l'épidémie cet après-midi autour d'Emmanuel Macron. On se souvient aussi de ces nombreux bateaux de croisière devenus des foyers de contamination géants. 180 plaintes viennent d'être déposées à Paris par un collectif de passagers.
Qui attaque la compagnie Costa Croisière, notamment pour homicide involontaire et omission de porter secours. En cause, la gestion du Costa Magica, un paquebot refoulé début mars de plusieurs ports des Caraïbes à cause des cas détectés à bord. 6 personnes sont mortes des suites du Covid parmi les 2300 passagers.
Bonjour, maître Philippe Courtois.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous représentez les familles de 3 de ces passagers décédés. En quoi la compagnie a failli, selon vous ?
Elle a failli à plusieurs titres. Le premier étant, bien entendu, que le bateau ne devait pas partir au début de cette croisière pour une raison très simple, c'est que dans les jours qui ont précédé ce départ, le Costa Magica avait été déjà refusé de faire des escales dans les ports concernés par les excursions. Donc déjà, il le savait qu'il y avait une difficulté, que les autorités locales refusaient, notamment d'ailleurs, c'était à Sainte-Lucie, 2 jours avant le départ, le Sainte-Lucie avait refusé en raison du non-respect par le commandant des recommandations sanitaires. Mais par la suite, 24 heures après le départ de notre bateau, malheureusement, les refus se sont succédés et il n'y avait aucune aide à bord, très clairement.
Costa Croisière se défend aujourd'hui d'avoir négligé ou caché des informations à ses passagers. Vous avez des preuves du contraire ?
Le collectif que je représente comprend 850 personnes, passagers. Ils ont toutes une version différente forcément de Costa. Étonnamment d'ailleurs, c'est qu'on a des vidéos où on voit le personnel refuser de répondre aux questions légitimes des passagers. Et c'est les passagers eux-mêmes qui se renseignent entre eux auprès de la presse locale. Donc, ce qu'a pu dire Costa hier a particulièrement surpris les passagers, mais également les autorités. Parce que lorsque Costa peut dire encore hier qu'ils ont été en lien avec les autorités locales, c'est complètement faux, dans la mesure où on a le préfet de Martinique qui a imposé et intimé l'ordre au commandant de placer dans leur cabine l'ensemble des passagers et de refuser les repas. Sauf que qu'est-ce que fait le commandant? Il va laisser les cabines ouvertes, et même pire que ça, il va fermer 2 restaurants sur 3, c'est-à-dire qu'aux heures des repas, donc petit-déjeuner, déjeuner et dîner, l'ensemble des passagers se précipitent pour en même temps à la file indienne pour aller se restaurer. Donc honnêtement, là, il faudra que Costa soit beaucoup plus précis dans ce qu'il a pu apporter. Il n'apporte aucun élément, alors que nous, on dispose tout de même de différentes vidéos et informations locales.
Ouais, la compagnie donc Costa Croisière, que vous visez par ces plaintes, notamment pour homicides involontaires. Merci, maître Philippe Courtois. Vous êtes, je rappelle, l'avocat d'un collectif de passagers de ce bateau, le Costa Magica. Merci d'avoir été en direct dans le journal de 8h d'Europe 1.
Un violent incendie cette nuit dans un immeuble de Vincennes, près de Paris. Il y a 2 morts, selon les pompiers qui sont intervenus entre 1h et 5h du matin. Emmanuel Dutail, sinistre très violent, dont l'origine reste encore inconnue.
Oui, les pompiers parlent même d'un incendie d'une rare intensité. Ils font une comparaison, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec ce fameux incendie de la rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris, qui avait causé de nombreux dégâts. Le feu s'est déclaré là vers 1h du matin. De nombreux habitants étaient prisonniers des flammes dans cet immeuble de 7 étages quand les pompiers sont arrivés. Des personnes qui réclamaient de l'aide aux fenêtres. 2 personnes n'ont pas survécu. Dès leur arrivée, les pompiers ont en effet trouvé au pied de l'immeuble une première victime. L'homme, d'une 50aine d'années, semble s'être défenestré. Au 2e étage, ils ont retrouvé le corps d'une femme qui n'a pas pu échapper aux flammes. Et effectivement, pour le moment, l'origine de l'incendie dans ce quartier plutôt résidentiel reste à déterminer.
Les toutes dernières précisions avec vous, Emmanuel Dutheil.
Europe 1, 8h07, la suite du journal. Théo Manval, Sébastien Krebs.
La traque au Niger. L'armée nigérienne, appuyée par les forces françaises, continue de ratisser la zone de Kouré pour tenter de retrouver le commando qui a tué 8 personnes dimanche.
Dont 6 humanitaires de l'ONG Acted, des volontaires âgés de 25 à 35 ans. L'organisation va porter plainte. L'enquête sur place ne fait que commencer et les conditions sur place sont difficiles. Nicolas Toneff.
Les militaires patrouillent autour des villages et dans la brousse, plus personne ne sort à la nuit tombée. C'est ce que nous raconte un guide de la région de Kouré.
Les militaires sont en place partout dans la brousse. Les policiers, les gendarmes, tout. Les gens qui sont en place, les natifs, ils font leur activité, mais les gens, ils ne vont pas circuler la nuit, hein. Et même les villages environnants, ils disent qu'est-ce qui se passe. On n'a jamais eu les gens qui circulent dans la brousse qu'on ne connaît pas, jamais. On n'a pas vu des comportements étranges.
Le territoire à fouiller est immense et souvent difficile d'accès. Zone boisée, terrain accidenté, les techniciens en identification criminelle sont à la difficile recherche de traces et d'indices que les fuyards à moto auraient pu laisser. Les forces armées nigériennes sont aidées par l'armée française. 2 Mirage 2000 quadrillent la région et quand il le faut, un drone relève les avions de chasse. Problème, les frontières du Bénin, du Nigeria et du Burkina Faso sont proches. Les assaillants, djihadistes ou non, ont eu le temps de s'y réfugier depuis l'attaque. Attaque qui, selon Acted, relèverait d'une opportunité saisie par les tueurs et non d'une embuscade préparée à l'avance pour assassiner des Occidentaux. Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Acted, de son côté, annonce qu'elle va déposer une plainte au pénal en regrettant que la communauté internationale ne garantisse pas davantage la sécurité des travailleurs humanitaires.
Nicolas Toneff, au Liban, les manifestants ont été exaucés. Le Premier ministre Hassan Diab a annoncé hier soir la démission de son gouvernement, 6 jours après la double explosion qui a fait plus de 160 morts. De nouveaux rassemblements ont encore eu lieu cette nuit. On va rejoindre sur place Nicolas Feldman, notre envoyé spécial. Nicolas, une question, que va-t-il se passer maintenant ?
Eh bien, il y a d'abord ce que dit la Constitution. C'est au président de nommer maintenant un Premier ministre, à lui ensuite de former le gouvernement. Une étape ici souvent longue et faite de compromis entre les partis politiques et de ces petits arrangements. Eh bien, les manifestants n'en veulent plus. Ce qu'ils réclament ici, c'est un gouvernement de technocrates débarrassé de ses familles politiques au pouvoir depuis 30 ans et la fin de la guerre civile. Écoutez par exemple Omar, rencontré hier soir sur la place des Martyrs.
Vraiment, on veut que tous partent. Parce qu'ils font tous partie de la même mafia, même ceux qui essayent de faire quelque chose et qui s'opposent, ils n'arrivent pas à s'imposer tellement la mafia est grande. On veut un ministre qui sait ce qu'il fait, qui est expert dans son domaine, pas des gens qui sont juste attribués selon leurs relations personnelles. On veut des gens qui savent ce qu'ils font.
Et il y a urgence, car au-delà de l'explosion, au-delà de ces 220 morts, de ces milliers de blessés, de ces centaines de milliers de sans-abri, la crise économique frappe le Liban, la pauvreté touche plus d'un citoyen sur deux, et des réformes pour plus de transparence sont attendues, exigées même par la communauté internationale pour débloquer une aide de plusieurs milliards de dollars.
Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 au Liban. L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya s'est réfugiée en Lituanie, c'est ce qu'indique ce matin le ministère des Affaires étrangères lituanien. Alors qu'un manifestant a été tué cette nuit à Minsk dans de nouvelles manifestations contre la réélection du président Loukachenko.
Europe 1, 8h11.
L'actualité économique à présent et cette conséquence de la crise du Covid, les prêts immobiliers sont de plus en plus difficiles à obtenir.
Notamment si vous travaillez dans les secteurs les plus impactés, les banques ne cessent de durcir les conditions d'obtention d'un crédit. C'est ce qu'explique Maëlle Bernier, porte-parole de MeilleurTaux.com.
On a effectivement noté des resserrements de conditions, des exigences plus fortes de la part des banques. Et ça, c'était déjà avant la crise du Covid. Et ensuite, vous avez maintenant un élément qui est effectivement important et pour le coup qu'on trouve assez logique, à savoir le risque de chômage et notamment le secteur d'activité. C'est-à-dire qu'évidemment, les banques peuvent regarder d'assez près là où vous travaillez. C'est-à-dire qu'en fait, un secteur qui aujourd'hui est encore en chômage partiel alors que les autres ont repris leur activité, ça veut dire que c'est un secteur qui souffre, c'est un secteur qui est incertain. La restauration, l'événementiel, l'aéronautique. Évidemment, on comprend bien qu'un dossier dans ces catégories-là va être étudié avec plus de prudence, par exemple, qu'une jeune infirmière ou un médecin ou un fonctionnaire ou même un plombier. Les banques sont plutôt plus prudentes et c'est assez logique. Est-ce que c'est vraiment prudent d'endetter les gens à ce moment-là? Je ne suis pas certaine.
Maëlle Bernier, porte-parole du courtier MeilleurTaux.com. Elle répondait à Élise Dangean.
Les banques plus prudentes, plus frileuses, alors que faire pour favoriser l'accession à la propriété? Les réponses d'Emmanuel Wargon, la ministre chargé du logement dans 10 minutes maintenant.
Canicule, sixième jour. On attend encore 37 degrés à Lyon ou Auxerre cet après-midi, jusqu'à 38 à Albi. Il faisait déjà au lever du jour 25 degrés à Paris, 24 à Toulouse. Il y a quand même des secteurs du commerce, Sébastien, à qui ça profite?
Bah oui, une petite glace, évidemment, les glaciers doivent en profiter.
Quand il fait chaud, les Français achètent des glaces. 80% du chiffre d'affaires du secteur se fait l'été. Plus il fait chaud, plus on s'arrache les bacs, pots, cornets, bâtonnets et autres barres glacées. Timothée Arargentet, secrétaire général de l'Association des entreprises de glace.
Dans le top 3, on retrouve souvent les bâtonnets et les cônes. Et en termes de saveur, généralement, ce qui marche bien aussi, et dans les nouveaux lancements de cette année, on l'a constaté déjà en ce début d'été, ce sont tous les produits à partir de fruits. Les sorbets, c'est essentiellement de l'eau, hein. Donc forcément, voilà, ça rappelle de la fraîcheur, ça rappelle une sensation d'hydratation.
Et puis il y a la bière, souvent vue comme une boisson rafraîchissante. 60% de la consommation de houblon se fait pendant la période estivale, mais dès que la canicule s'installe, les Français délaissent la bière, rappelle Maxime Costil, délégué général des Brasseurs de France.
La bière, elle peut être rafraîchissante, mais il faut faire attention. Quand il fait trop chaud, comme tout alcool, elle n'a pas le pouvoir désaltérant que peut avoir l'eau.
Et justement, l'eau est logiquement plébiscitée l'été. En cas de forte chaleur, la consommation d'eau minérale, plates et gazeuses peut augmenter de 50% en une semaine. Dans leur sillage, les citronnades, sirops et autres boissons fruitées ont la cote. Quant au repas, les Français optent en masse pour le gazpacho.
Voilà, gazpacho et glace au programme Clément Le Saffre pour Europe 1.
En football, pour terminer, J-1 avant le rendez-vous du PSG avec l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Quart de finale demain soir qui se jouera sur une seule rencontre. Pas de match retour, c'est la particularité de cette phase finale version coronavirus. Et un adversaire, il faut bien le dire, assez méconnu en France, Bergame. Club italien en pleine progression et à l'histoire particulière, Jean-François Pérez.
À Bergame, on ne plaisante pas avec l'Atalanta. Depuis 10 ans, chaque nouveau-né reçoit en cadeau un maillot du club. Si vous êtes de Bergame, vous ne pouvez pas ne pas aimer l'Atalanta, explique l'ingénieux président Enrico Percassi à l'origine de l'initiative. Étonnant contraste entre cette ville de 120 000 habitants discrète et la passion qu'elle voue à son équipe, pourtant longtemps cantonnée au second rôle quand ce n'était pas la deuxième division. Il y a 4 ans, Percassi embauche Giampiero Gasperini, entraîneur aux références modestes mais adepte d'un football offensif. Il construit pièce par pièce son effectif jusqu'à l'historique qualification pour la Ligue des Champions. Pas de star internationale, mais un jeu pétillant qui séduit l'Europe du foot. Le 19 février dernier, en 8e de finale aller, l'Atalanta reçoit les Espagnols de Valence. Son stade est trop petit, alors ses 40 000 supporters font le court déplacement à Milan. Sur le terrain, c'est un triomphe, 4-1. Mais ce match contribuera sans doute à la propagation d'un virus encore exotique, nommé Covid-19. Bergame et la Lombardie paieront un tribut dramatique à l'épidémie. Près de 17 000 morts dans la région. C'est aussi pour eux que l'Atalanta, à peine sorti du cauchemar, tentera de poursuivre son rêve européen face au PSG demain soir.
Jean-François Pérez, chef du service des sports, et le match sera évidemment à suivre en direct sur notre antenne.
Et on a bien noté le rendez-vous et on aura bien le temps d'y revenir aussi. D'ici là, c'était le journal de 8h signé Théo Manval.